Voilà, maintenant que le président a fermé la porte, on peut commencer. Tu as préparé?
Oui.
On va antiphoner.
Si vous voulez, je me suis dit, puisque c'est un psaume et que la raison d'être des psaumes, c'est quand même de chanter, je voulais vous proposer qu'au lieu qu'on le lise, on le psalmodie ensemble et que je vous montre juste une mélodie simple. J'ai fait des petits papiers, mais je ne sais pas s'il y en a qui montent. Et voilà. Je vais juste la main. Bienvenue à chacune, à chacun pour cette deuxième
étape de notre traversée de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et aujourd'hui, avec Marc, nous avons décidé, donc Marc qui est ici, nous avons décidé de prendre l'un des textes peut-être les plus connus de la Bible, connus par cœur par des millions, des milliers de croyants dans le monde, dans toutes les langues, sous toutes les latitudes, et qui parlent avec des images extrêmement simples et accessibles de Dieu. Alors peut-être qu'on va prendre la peine de se présenter ce soir, parce que peut-être que tout le monde ne nous connaît pas ici. En tout cas, personnellement, je ne connais pas tout le monde, donc j'imagine que tout le monde ne nous connaît pas. Voilà, c'est des déductions logiques. Jean-Jacques Imberti, qui descend du Reculet, qui est berger, et qui rejoint un autre troupeau ce soir. Alors, j'ai appris par hasard que Jean-Jacques avait été marié par Vincent Schmitt à la cathédrale Saint-Pierre. C'est pas pour ça que vous êtes ici, c'est parce que vous êtes berger. Hein, je tiens à le préciser. Mais c'est par le biais d'une amie que j'ai eu votre adresse et que vous avez gentiment accepté de venir nous parler de votre métier. Je m'appelle Emmanuel Roland, je suis pasteur ici depuis quelques années. Et puis peut-être Marc, si tu veux dire quelques mots de toi, puisque tu interviens aussi.
Donc, j'étais pasteur à Paris, à l'Oratoire du Louvre, et je suis à Genève avec joie depuis le 1er mai, en fait. Un peu sur la région Rive-Gauche, en fait. C'est cathédrale, Champel, Malagnou, Arves, Eau-Vive.
Voilà. Et donc, avec Marc, on a décidé de cette lecture suivie, une fois par mois, de la Bible. Bienvenue. Il y a encore quelques places ici. La prochaine fois, promis, on cassera les murs. Et nous allons procéder un petit peu de la même manière que avec le récit de Genèse 1, qui était le premier récit de la création, où nous avions comme consultant extérieur François Vazet, qui travaille au CERN et qui est venu nous parler de la création du monde sur le plan scientifique. Là, on a un homme de la nature, un homme des grands espaces. Il y a chacun d'entre vous dans ce cercle qui connaît ce psaume, Marc et moi qui avons préparé aussi quelques apports théologiques, historiques, exégétiques. Et dans un premier temps, nous allons donc reprendre la découverte de ce texte que vous connaissez. Tu fais une introduction ?
Alors j'avais deux petites choses. Alors d'abord, merci pour ces mots. C'est vrai que le psaume est très connu parce qu'il a une capacité à nourrir la personne dans les bons jours comme dans les mauvais jours qui est effectivement extraordinaire. Pour les juifs, pour les catholiques, pour les protestants, les chrétiens de toutes sortes. Alors vous avez vu sur la petite feuille, c'est amusant, c'est qu'en fait c'est marqué 22. C'est grande difficulté de l'œcuménisme. Pour certains psaumes, il y a un décalage d'un numéro. Donc, vous voyez, tant que l'œcuménisme aura cette difficulté, ça va quand même. Oui, une petite introduction sur l'hébreu, en fait. C'est qu'à l'occasion de ce texte, je crois qu'il y a des choses, en quelques mots, qui peuvent prêter, qui sont intéressantes à noter. L'hébreu, si vous voulez, en particulier pour les verbes, c'est des racines à trois lettres. Et en fait, la combinaison, il faudrait demander aux mathématiciens, mais la combinaison est vite faite avec trois lettres, avec 22 lettres de l'alphabet. La combinatoire est relativement limitée, ce qui fait qu'il y a énormément de jeux de mots avec des racines qui ont plusieurs sens différents. Ça s'empire encore parce que sur ces trois lettres, quand le verbe est décliné, il y a des lettres qui sont plus faibles que d'autres et qui tombent, qui sautent en fait. Il y a le aleph, le hé, le vav, le O, si vous voulez, et le yod. Il y a quatre lettres qui peuvent tomber quand c'est décliné. Si je vous dis ça, c'est parce que vous verrez dans les traductions, à la fin, j'habiterai dans la demeure de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, pour la longueur de mes jours. Selon les traductions, il y a j'habiterai, d'autres je reviendrai. Alors, non, mais quand même, c'est pas la même chose. Oui, mais c'est qu'en fait, avec le mot décliné, il reste plus seulement que deux lettres. Et donc le verbe, on ne sait pas si c'est yachav ou si c'est shuv. Alors, c'est fait pour, si vous voulez. Ce verbe-là, il est ambigu. Il a deux sens en même temps. Et l'hébreu joue sans arrêt là-dessus, sur les jeux de mots, pour essayer d'approfondir du sens ce qui rend bougrement difficile le travail du traducteur, parce que c'est à la fois je reviendrai, à la fois j'habiterai, et ça explique bien la dualité de notre existence. Bon, on n'est quand même pas si nul que ça, donc il faut essayer de bien garder le meilleur de nous-mêmes. Et puis, bon, il y a quand même un petit peu une marge de progression, donc il faut aussi revenir, avancer. Donc on est toujours dans cette dualité, et quand vous regardez le psaume, il joue toujours sur ces deux, cette dualité. Donc c'est fait pour, et l'hébreu sans arrêt à ce jeu de mots. Alors deuxième chose qui est rigolote en hébreu, ou plus compliquée, c'est qu'il n'y a pas présent, passé, futur, comme en français. Il y a l'accompli et l'inaccompli. Là où ça se complique, c'est que si vous voulez, l'accompli, c'est quelque chose qui est accompli, donc c'est le passé, jusqu'au présent, présent compris. Et l'inaccompli, ben, c'est le présent et le futur. Donc pour aller traduire ça, bonne chance. Sauf que du coup, en entendant l'hébreu, il ne faut pas se laisser avoir, et, c'est-à-dire par les traducteurs. Par exemple, là, chaque fois qu'il y a un futur, c'est aussi le présent. C'est le présent et le futur. Ça veut dire, si c'est au futur ici, ça veut dire que ce n'est pas que dans le passé. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est le présent et le futur. Donc, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On pourrait se dire, ça parle, oui, pour la vie éternelle. Alors, on a beau jeu de nous dire, oui, mais enfin, vos promesses, bon, on dit aux gens, souffrez bien en ce monde, et puis dans le monde futur, ça va rigoler, ça va chanter, donc souffrez bien en ce monde. C'est pas du tout ça. C'est le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui et maintenant, et m'accompagnera dans le futur. Ça change tout, si vous voulez. Donc, chaque fois qu'il y a un présent, c'est souvent aussi... pour le futur, et quand c'est un futur, c'est pour le présent aussi. Il y a en fait, dans ce psaume, il n'y a que de l'inaccompli, presque que de l'inaccompli partout, c'est-à-dire du présent-futur, sauf deux verbes qui sont à l'accompli. Il y a « tu as oint d'huile ma tête », c'est effectivement à l'accompli, donc c'est passé et présent, « tu as oint d'huile ma tête » et « tu oint encore aujourd'hui d'huile ma tête », on pourra voir ce que ça veut dire si vous voulez. Et il y a un deuxième qui est accompli, c'est assez curieux, si curieux que le traducteur le met d'une manière fausse au futur, c'est justement, c'est « j'habiterai, je reviendrai dans la demeure de l'Éternel », c'est à l'accompli, et donc c'est déjà, Dieu nous a déjà accueillis, on a déjà fait un mouvement, et encore aujourd'hui, Dieu nous accueille et nous guide dans ce mouvement. Donc ça c'est pour vous dire, si vous voulez, au cours de nos discussions sur ce texte hébreu, mais sur tous les textes donc de l'Ancien Testament, il y a ces deux choses auxquelles il faut se souvenir, voilà, mais peut-être particulièrement ce temps des verbes, qui à mon avis est une mentalité, une texture du texte biblique qui est importante à bien saisir. Ce texte, il est souvent lu pour les obsèques en disant oui, alors ça parle du passage à travers la mort pour aller dans le paradis. En fait, non, c'est pas du tout de ça dont parle ce texte. Vous avez vu à la fin, hein, jusqu'à la...
Il y a une façon de comprendre, je m'excuse, mais c'est
plus ou moins...
toujours, la lecture est toujours infinie.
Oui, sauf que...
C'est une des possibilités de le relire aujourd'hui.
Oui, sauf que, il y a marqué pour la longueur de mes jours. La longueur de mes jours, ça dit bien, c'est pour la vie en ce monde. Là, je suis d'accord avec vous et j'en suis parfaitement d'accord. Le meilleur de notre vie en ce monde... et aussi pour la vie future. C'est ce que dit le Christ, hein, celui qui vivra maintenant ne mourra pas. Ce qui est vraiment vivant en nous vit pour toujours. Donc c'est aussi pour la vie future, mais ce texte n'a pas été écrit pour ça. C'est un regard chrétien sur ce texte qui fait dire ça. Les Juifs, eux, la vie future, ils font exprès de dire « c'est pas la question, on évacue la question » pour se concentrer... pas sur la question de la vie après la mort, mais savoir déjà s'il y a d'être vivant déjà avant la mort. Ils se concentrent là-dessus. Et je crois que c'est pas si idiot que ça. C'est pas qu'ils ne croient pas à la vie future, c'est qu'ils se concentrent sur la vie présente, que ça soit une vie profonde et vraie. Et c'est ça dont parle ce texte, avant tout. Et alors ensuite, on a une lecture chrétienne où on extrapole sur la vie présente et la vie future. Mais... l'intention peut-être du psalmiste, c'est de parler de cette vie présente, de ces difficultés, de cette marche, de cette avancée, de ce que Dieu nous apporte pour cette vie.
Alors, on va distribuer de ce psaume, que vous pouvez lire en hébreu si ça vous chante, ou en français, c'est n'ayez pas peur, c'est une traduction. Donc c'est de l'hébreu, mais qui est traduit au mot à mot en français juste en dessous. Mais ça vous donne une approche, en tout cas, d'abord de l'écriture de droite à gauche, et puis du sens rocailleux des mots, on va dire, hein, sans effet de style. Mais vous avez la traduction française en bas, qui est la traduction juive de l'Ancien Testament. Ce n'est pas la traduction seconde, c'est la traduction du rabbinat. Voilà. J'espère qu'on est moins de 30, parce que j'avais un optimisme fou. Je pensais qu'on serait moins de 30, ou 30, mais je pense qu'on est un peu plus nombreux. Donc n'hésitez pas à vous partager ces copies. Et nous allons procéder comme la dernière fois, c'est-à-dire par une lecture à haute voix de ce psaume, après quoi nous recueillerons un certain nombre de sujets sur lesquels vous avez envie que nous parlions d'ici 21h. Et là, Jean-Jacques Alberti, comme berger, Marc, comme théologien, et moi, interviendrons, et chacun d'entre vous aussi, sur les sujets précis qui sont révélés par la lecture de ce psaume. Ça va, tout le monde a à peu près une... Et encore ? Vous n'avez pas ? Ça arrive encore pour madame ? Voilà. Non, je sais bien. Mais donc, si quelqu'un veut s'approcher, n'hésitez pas. Ça va, tout le monde a... Il y en a encore une, chez Marc, là-bas. Voilà. Alors, comme beaucoup d'hommes parlent ce soir, est-ce que Anne, tu serais d'accord de nous ? Si, si. Voilà. Tu es élue. Merci. C'est la dernière fois que je te fais, je te promets. Tu peux revenir tranquille la prochaine fois.
Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de vertes prairies, il me fait camper, il me conduit au bord d'eau paisible. Il restaure mon âme, me dirige dans les sentiers de la justice en faveur de son nom. Dussé-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu serais avec moi. Ton soutien et ton appui seraient ma consolation. Tu dresses la table devant moi, à la face de mes ennemis. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est pleine à déborder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ma vie durant, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur.
Merci. Donc, quelques minutes d'appropriation silencieuse où vous laissez venir à vous les questions que vous avez envie de poser à propos de ce psaume. Voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de partager ses questions ? Donc, le but, c'est pas de rentrer en débat, mais c'est que nous récoltions, nous, la moisson pour que nous puissions nourrir la discussion ensuite.
Alors, oui ? Un souvenir d'enfance, parce que moi, j'ai appris dans la version seconde, et à la place au verset 4, c'est « Ton bâton et ta houlette me rassurent ». Donc, un peu plus terre à terre, on va dire, plus concret. C'est pas tous les jours qu'on a un berger sous la main. On m'avait raconté que la houlette, c'était pour envoyer des mottes de terre sur les moutons qui s'éloignaient trop loin. C'est faux, c'est vrai. Comment on peut comprendre ce mot
Alors, on note les questions. Hein. Donc, ça, c'est le professionnel qui va vous répondre tout à l'heure sur son métier. Merci d'être là, parce que hein, les souvenirs de catéchisme et puis les histoires que les catéchètes racontent, c'est le moment de les vérifier vraiment. D'autres. Christine ?
Tu dresses la table devant moi, face à mes ennemis. C'est une idée un peu inattendue.
Absolument. Merci.
Oui, il me semble que la traduction paraît beaucoup plus courte que le texte original. Je ne sais pas si.
Alors, oui, on y reviendra. Absolument. Merci, je note.
Moi, ce qui est étonnant, c'est ce côté conditionnel.
Tu as dit fonctionnel ?
Hein ?
Fonctionnel.
Conditionnel.
Conditionnel.
Si, du sais-je. Mm-hmm. Si. C'est assez frappant quand on parle de cet accompli ou cet inaccompli.
Alors, on reprendra la question des temps.
Je suis toujours frappée quand j'entends du sais-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je pense à des gens qui ont vécu des choses terribles et je me dis comment est-ce qu'on peut ne craindre aucun mal.
C'est conditionnel. Il y a quand même une idée de.
Oui. D'autres questions, remarques, surprises. Il faut toujours partir des surprises, hein, pas des choses qu'on sait déjà.
À la fin du troisième verset, en faveur de son nom. Ça, je ne comprends pas très bien.
Merci.
Ma surprise, c'est que j'ai rien à dire parce que j'ai appris ce psaume comme petite fille catholique et je l'ai chanté. Tu es mon berger, mon Seigneur. Et j'avais 7 ans et j'étais dans une phase mystique, je pense. Et ces paroles, même bien sûr contextualisées, remises dans. Elles me comblent. Je ne peux même pas les discuter. Donc je suis redevenue une petite fille ce soir.
Très bien. Merci.
Est-ce que ce n'est pas un peu idyllique, je ne manquerai de rien, alors que bon, on sait très bien que la majorité des gens manquent beaucoup, plein de choses. Donc c'est un peu. Enfin, on a du mal à tout prendre au pied de la lettre.
Encore d'autres choses?
C'est un des sommes super positives où les pères là, et comme des enfants, on doit rien prendre parce que tout sera servi. Par contraste à d'autres sommes où défends-moi de la guerre et attaque mes ennemis, détruis-les. Ici, il n'y a que du bon.
Ici, il n'y a que du
bon.
Oui, il n'y a que du bon.
En tout cas dans la traduction, c'est le, à la face de mes ennemis, c'est comme si la table devenait une arme, mais une arme comme l'autre joue contre, enfin voilà, une arme sans violence, enfin, sans combat, disons.
Merci. On part avec ça ? Alors peut-être. On va vous donner la parole, Jean-Jacques.
Alors, des brebis, j'en ai beaucoup, mais il y a peut-être plus de personnes ici qui ont une manière de parler que je n'ai certainement pas. Alors, je vais vous expliquer un peu ma vie, entre guillemets. Mes parents sont des émigrés italiens qui sont arrivés, comme tout émigré, par un train, arrivé à Genève. Mon papa était berger, mon père était de 7e génération de berger en Italie, d'une petite ville de Bergame, du nord de l'Italie. C'est un village encore aujourd'hui où des bergers sont formés par la nature, parce que c'est un endroit montagneux, et ils ont encore ce sens d'être berger. Mes parents sont arrivés en 1956, à Genève. Leur amour, ma maman était infirmière à la maison de retraite de Vessy. Ils sont connus Rondeau de Carouge. Après quelques années, je suis né. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au pasteur. Ce qui m'a fait devenir berger, entre guillemets, agriculteur berger, on va dire comme ça, c'est à un moment donné, mon père, qui je vois encore aujourd'hui, qui est malheureusement décédé il y a 5 ans, dire pour mon baptême avec le prêtre de Carouge, parce que je suis catholique, en venant apporter son fils à l'église pour le baptême, le prêtre lui dit « Monsieur Hubertine, nous avons le même métier. » Ça fait rire beaucoup de gens, et je le conçois. Ça m'a beaucoup marqué quand il me l'a dit. Mes parents émigrés, quand on arrive d'un pays comme l'Italie, hein, aujourd'hui c'est pas très loin, on ne veut pas que son fils soit quelque, comment dire, dans le primaire. Ma maman aurait toujours aimé que je sois dans le tertiaire. Étant bergamasque, de sang bergamasque, c'est des gens qui sont durs, qui aiment la vie, qui aiment la nature. Et on est, comment dire, quand on essaye de vous contraindre à quelque chose, vous foncez. Elle a tout fait pour pas que je devienne agriculteur berger, et tout ce qu'elle a pu. Mais plus elle m'évitait de faire ça, plus j'enfonçais pour être agriculteur. Donc j'ai vécu toute mon enfance à Genève, donc ceux qui connaissent la ferme de Pinchat. Après nous avons, alors c'est la famille Vecchio qui était ça remet des souvenirs dans vos têtes, parce que les marrons et les glands, pour la plupart des gens, ont tous été livrés des marrons et des glands ou au boulevard Calvot ou à la ferme Vecchio à Vessy. C'est quelque chose qui doit nous revenir en terre. Donc, cette période d'adolescence, c'était compliqué pour moi. J'étais l'émigré, le seul dans la classe. Donc, un peu repoussé par tout le monde. Et qu'est-ce qui était beau? Il n'y avait pas de télé, parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui à mon fils. Je me suis marié tard, c'est pour ça qu'on était à la cathédrale, il y a beaucoup de monde. J'avais presque 8 ans quand la télévision est arrivée chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On était attachés. Et aux gens qui vivaient avec mon papa et ma maman. Il faut savoir, la famille Vecchio avait énormément de moutons. En 69, on en a eu 20 000, je ne sais pas, en tournus, hein, d'accord? Ça partait au marché, c'est une famille de bouchers. Donc, ils arrivaient à Genève, on les ramenait à l'abattoir de Genève et ils étaient distribués dans toute la Suisse. Le monde, ces 8-10 bergers qui habitaient chez nous, c'était mes grands-pères. Mes grands-pères, mais vraiment mes grands-pères. Comme mon père me donnait une claque, aujourd'hui, entre guillemets, c'est plus possible, c'est eux qui pleuraient avant moi. Je sais pas si c'est l'image, hein, des gens qui... j'étais l'idole pour ces gens-là, parce que j'étais un garçon aujourd'hui nommé hyperactif, pas facile, toujours l'envie d'être dans la nature. Quand on m'a mis pour la première fois dans une classe d'école, c'était une catastrophe. Je crois que la maîtresse, même qu'elle avait un certain âge, elle a dû transpirer assez pour m'essayer de me calmer, de me mettre dans le rang. Et quand je pouvais filer avec le berger, c'est M. Vecchio qui me faisait monter dans la voiture pour m'emmener à la maison. J'étais toujours enfilé sous la cape du berger quand il pleuvait. De là, la vie évolue. J'ai fait toutes mes écoles à Genève normale. Et comme j'étais un enfant très indiscipliné, j'ai fini dans les plus grandes écoles privé de Genève, c'est-à-dire école à Saint-Louis et à l'école Moser. Mais alors mes parents ont tiré la ceinture, je ne sais pas comment ils ont fait pour payer ça, mais c'est la vie. Je leur dois, comment dire, un merci. J'aurais bien aimé que mon fils soit là, ça va peut-être me faire pleurer, mais c'est pas grave. À l'école Moser, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes collègues où son père était patron du CEPIA. Ça veut dire qu'il dirigeait tous les apprentis de Genève. Et je lui ai demandé son numéro de téléphone. Il s'appelait M. Schindler, je me rappelle quand c'était hier. Hein. Je lui ai téléphoné à l'école de Saint-Louis, je lui ai téléphoné. Et j'ai dit, je veux être agriculteur, je veux faire l'apprentissage d'agriculteur. Il m'a dit, M. Liberti, pas de problème, vous venez un jour, je vous donne des adresses, vous voyez. Le premier de la liste, j'ai téléphoné sans rien dire à mes parents. Le 1er juillet, j'étais engagé comme apprenti agricole. Je vous rassure, quand vous arrivez à la maison où ils avaient prévu, mon père avait le droit à 15 jours de vacances, de partir à la mer, ils sont partis tout seuls. Moi, je suis parti en apprentissage, mais eux sont partis à la mer tout seuls. Je vous rassure, une maman italienne qui lâche son gamin dans un domaine agricole. Elle a dû serrer le cœur, tout ce qu'elle avait possible pour partir en vacances avec mon père, qui est une personne avec du cœur, avec un grand rustre, qui aimait son travail, c'est la seule chose qui comptait, et sa famille. Des gens tout le temps droit. De là, j'ai fait l'agriculture. Après, j'ai été envoyé à l'école d'agriculture à Châteauneuf, en Valais, puisqu'à Genève, il n'y a pas d'école d'agriculture. De là, j'ai eu la chance de rencontrer un ambassadeur du marché commun, qui était vietnamien, qui habitait au milieu de la cour de Vessy. J'ai rencontré d'énormes personnes. J'ai eu, pour le Parisien qui est à côté de moi, d'un côté la Légion d'honneur et de l'autre côté le poireau dans la poche. C'est des moments de la vie que je dois à ma culture et à mon éducation faite par mes parents. Et grâce à ça, j'ai réussi à côtoyer ce monsieur. J'ai même fait le chauffeur, j'étais en chasse ministérielle, j'ai fait beaucoup de choses que dans la vie normale d'un berger, ça n'existe pas. Mais j'ai réussi à le faire. De là, je suis parti à l'université à Minneapolis, en section génétique. Ça ne m'apporte rien aujourd'hui, je m'en fous. Mais l'ambassadeur a réussi à convaincre mon père de dire, M. Liberti, il ne faut pas rester dans un créneau. Il faut que votre fils voie autre chose dans la vie. Voir autre chose. C'est d'autres expériences, donc les États-Unis, à l'université, je vous rassure, j'étais un des premiers Suisses à débarquer dans cette université. Au Minnesota, c'est tout en haut, il fait très froid, débarquer l'hiver. Moi qui suis au mois de décembre, j'aime bien la chaleur, hein, je vous rassure, mais là, ce n'était pas le cas. De l'université, j'ai eu la chance de rencontrer une autre personne qui travaillait à Finagrain, qui est une personne qui était d'Argentine. J'ai été travailler une année aussi en Argentine. Et ensuite, j'étais en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, pays du mouton. Mais on n'a pas tout à fait la même approche. En Nouvelle-Zélande, c'est grand comme la Suisse. Je vais dire le contraire. Il y a 3,5 millions de moutons en Suisse. Il y a 3,5 millions de personnes en Nouvelle-Zélande. Il y a 80 millions de moutons en Nouvelle-Zélande. On n'arrive pas à faire l'inverse en Suisse. Hein. On n'est pas 80 millions, mais 8 millions de personnes. Donc, voyez le chiffre un peu. En Nouvelle-Zélande, la culture du mouton est quelque chose qui est tout à fait différent avec le système. Là-bas, c'est extensif. Ils mettent les moutons, ils les tondent, ils récupèrent la laine. S'il y a un mouton qui meurt dans la nature, c'est pas grave. Ils en avaient 80 millions. L'année avant que j'arrive, ils en ont perdu 4 millions parce qu'ils ont tondu les moutons et il y a neigé. Oui, mais sur 80 millions, c'est peu. Il faut imaginer. Oui, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Hein, vous pouvez pas. Donc, je suis rentré à la maison et avec mon papa, j'ai travaillé. Je suis devenu directeur du domaine Vecchio. Et en 2009, je suis devenu fermier du domaine Vecchio. Et aujourd'hui, c'est un des grands domaines. La famille Vecchio est propriétaire du Reculet et des terres autour de Vessy. Puis on a une ferme en France, du côté de Chalais-Peuron. Voilà. Et donc les moutons habitent Vessy l'hiver, elles transhument le printemps dans les terres françaises, et après nous montons à l'alpage, au Reculet ou juste à côté, à Curson, et elle monte vers le 1er juin, et on est redescendu hier exactement, du reculé jusqu'au Tiocan, vous voyez, c'est au milieu de montagne, et du Tiocan ce matin, ils sont redescendus jusqu'à la ferme française pour y passer environ deux mois et demi. Il faut savoir que malheureusement, le bon Dieu aujourd'hui n'est pas très gentil avec nous. Il était très méchant dans l'Aude. Il n'est pas gentil avec nous. On aurait pu avoir un petit peu d'eau, nous, et puis avoir un peu moins d'eau chez eux. Ça nous aurait bien arrangé, mais c'est malheureusement pas nous. Et heureusement que jamais on essaiera de décider le temps du monde, parce que de toute façon, ce sera la guerre. C'est une année d'abondance dans certaines choses et de régression dans d'autres. Je pense que de nouveau, on va avoir des catastrophes climatiques qui vont s'empirer. La Suisse, jusqu'à aujourd'hui, on a énormément de chance. Il faut l'espérer qu'on la garde. On va dire de plus. En Suisse, il y a une vingtaine de bergers transhumants. Ça veut dire qu'ils partent du 15 novembre au 15 mars. Ils vivent dehors avec leurs bêtes. Si vous avez vu Hiver Nomade, c'est un film qui est un peu, pour moi, pas représentatif. L'espèce d'énergumène qui s'appelle Berger, toutes les dames qui sont ici, je pense qu'elles l'auraient trucidé, il parlait avec cette jeune femme. Nous, on en rigole, parce que nous, on sait ce que c'est que la dureté, mais ce n'est pas dans le verbe que la dureté est le travail. Ceux qui voient un peu comment le rapport entre ce monsieur et cette dame dans ce film. Il faut savoir que ce film n'était pas prévu pour cet homme-là. Il était prévu pour Luigi le berger, ceux qui ont été chez Janada. Monsieur Imsland a fait un splendide, mais vraiment splendide livre qui représente vraiment la vie. Luigi, il faut le savoir, c'est mon petit cousin qui habite Bergame dans le même village que mon père. Et c'est quelqu'un qui était charismatique, beaucoup plus que moi. Petit garçon, barbu, les yeux bleus, toutes les dames étaient folles amoureuses de cet homme-là, mais c'est la vérité, hein, je vous rassure. Et c'était vraiment quelqu'un qui avait la passion de la brebis ou du troupeau. Je l'ai aussi. Mais moi, je suis plus un naisseur. Ça veut dire que mon travail, aujourd'hui, c'est un berger qui est là, qui est du village de mon papa, qui s'occupe d'un domaine de 240 hectares. Je vous rassure que j'ai la tête de temps en temps, que je ne sais plus où elle est, mais il faut gérer tout ça, il faut gérer les hommes, il faut gérer la nouvelle politique agricole qu'on va nous faire faire. Hein, le 24, vous allez voter si on va laisser des corps aux vaches. On va être la risée du monde, mais peu d'importance, on va encore parler de la Suisse. C'est très bien. Alors, je n'ai pas d'avis aujourd'hui de vous dire que vous devez voter oui ou non, hein, et ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Mais on va voter pour savoir si on va garder les corps aux vaches ou pas en Suisse.
Voilà, alors merci infiniment pour ce témoignage vraiment extrêmement précieux. Je me permettrai, avec tout le respect que j'ai pour le curé qui vous a baptisé, de vous dire qu'il a quand même fait une erreur.
Je ne vais pas corriger l'erreur.
Je vais vous dire où elle est. C'est que ce n'est pas lui le berger.
Mais oui, il est berger parce que toutes les personnes qui...
C'est pas lui le berger. Dans le psaume.
C'est pas lui le berger, mais quand même.
Dans le psaume. Justement. Alors, le frère de Marc, qui s'appelle Louis et qui est aussi à Paris, mais qui aime beaucoup la montagne, dit que le curé ou le pasteur est au mieux un chien de berger. Au mieux, quand il fait bien son travail. Mais le berger, et c'est ça qui est quand même exceptionnel et extraordinaire dans ce psaume, eh bien, c'est vous. Et Dieu est le berger. Donc si on veut avoir une image de Dieu, on se tourne vers vous, vers le berger. C'est bien sûr, c'est un psaume du catéchisme qu'on récite, qu'on a appris par cœur, Mais au fond, quand on exploite et quand on va voir ce que ces images signifient, on est obligé de lire, et parfois de lire de manière la plus littérale possible, et lire de la manière la plus littérale possible nous amène à mettre ces deux images ensemble du berger et de Dieu, du Tout-Puissant qui est au ciel, etc., et du berger qui fait son boulot de berger, qui s'occupe de son troupeau de brebis avec les forces qu'il a à sa disposition. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, finalement, consciemment ou inconsciemment, on garde ce psaume avec autant d'affection et de tendresse, c'est parce qu'il nous parle d'un Dieu qui est proche de nous, comme un berger est proche de ses brebis.
Mais le pasteur est proche des gens.
Pas toujours.
Le pasteur et le curé. Voilà. Si on remonte dans le temps, ouais, aujourd'hui moins, mais dans le temps,
ouais,
c'était le docteur et le pasteur qui étaient le plus près des gens.
C'est vrai. D'ailleurs, le mot pasteur vient de ce mot berger.
Pastore. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais bibliquement, les images, finalement, le prêtre n'aura jamais le visage du berger, le prophète n'aura jamais le visage du berger. Les deux seuls à avoir l'image du berger, c'est le Christ, je suis le bon berger, et c'est Dieu, l'Éternel est mon berger. D'ailleurs, quand le Christ dira je suis le bon berger, ça créera un immense scandale, parce qu'il s'appropriera une image qui auparavant était réservée à Dieu. Vous voyez ? Donc, quand vous dites simplement ces deux phrases et que vous collez ensemble ces deux choses, l'Éternel est mon berger, vous êtes déjà dans une révolution, dans une explosion du modèle de ce qu'on imagine être Dieu. Hein. C'est l'inverse de tout ce qu'on a imaginé, c'est l'inverse de tout ce qui a été présenté jusqu'à ce psaume. Puisque Dieu est au ciel, Dieu règne, Dieu est roi, Dieu est tout-puissant, etc., etc. Vous connaissez tout ça. Et là, subitement, on a quelque chose de tout à fait différent. Vous avez une autre image dans ce psaume, et c'est évidemment pas l'image du mouton, mais c'est l'image de la brebis. Vous disiez tout à l'heure, on tond les brebis, elles crèvent, parce qu'il a neigé dessus. Image de la vulnérabilité, image de la fragilité, au fond. Et si Dieu endosse les habits de berger, qui est finalement un Dieu bien modeste, eh bien, l'envers de l'image, c'est celle de la brebis, et de cet être humain qui, malgré son génie, qui, malgré sa puissance aussi et sa force, finalement, dans ce psaume, n'est pas présenté autrement que comme une brebis, jamais vraiment à l'abri des coups, jamais vraiment à l'abri des loups, sur lesquels il y a toujours un truc qui peut lui tomber sur la tête, etc., etc. Et voilà la relation du fidèle avec son Dieu, du vulnérable avec son berger, hein, on va dire comme ça.
Oui, donc je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi que c'est une révolution, parce qu'en fait c'est une révolution copernicienne. Normalement Dieu c'est lui qui commande, et puis il faut chercher Dieu, là c'est Dieu qui suit les gens en fait. Et ça on le voit à plusieurs reprises, hein. C'est Dieu qui accompagne, je suis avec toi, et il y a le bonheur et la grâce qui accompagnent, qui poursuivent même, qui sont à la traîne, courir après, qui vont rechercher sa brebis. Donc c'est une révolution, c'est Dieu qui nous accompagne, c'est là qu'il y a une sécurité. Quand on se trompe, on se perd, d'ailleurs Jésus va reprendre cette image avec la brebis perdue, on peut se perdre, c'est pas si grave, Dieu est là pour nous chercher, nous raccompagner, il l'a promis, donc c'est l'inverse d'un Dieu qui dit bon, il y a un rail, il faut le suivre, si on suit le bon chemin, on est sauvé, si on s'écarte, tant pis pour lui, il a raté l'examen, je l'abandonne. Donc, vous voyez, c'est une révolution copernicienne. La deuxième chose qui me semble à relever, puisque tu le dis, c'est que le berger, c'est roi. Et quand on dit aime ton prochain comme toi-même, ben, le prochain, c'est roé. C'est-à-dire, c'est celui qui est dans le même, qui a le même berger, en fait. Et donc, la référence de qui est mon prochain, c'était la question du scribe, en fait. Qui est mon prochain ? Eh bien, c'est celui, c'est quand on a le même berger, c'est-à-dire quand on a le même, c'est pas quand on a le même Dieu, c'est quand Dieu nous considère comme ses enfants, comme étant ceux qu'il garde et qu'il accompagne. Donc du coup, tout homme, toute femme du monde entier est notre prochain. Vous voyez, c'est pas celui qui est proche, c'est celui qui a, le prochain, c'est celui qui a le même berger, littéralement. c'est la même racine.
Si je peux rebondir sur ce que vous dites, c'est que Roy, c'est aussi, selon comment on le lit, on peut lire aussi l'ennemi, le mauvais, le mal, c'est exactement le même. Ouais, donc, c'est aussi le même berger. C'est intéressant, parce que c'est celui qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants.
Ça, c'est vrai que c'est ce que, oui, c'est ce que le Christ relève aussi. Ouais. Donc il y avait des questions qui étaient posées ou des remarques. D'abord c'était le bâton et la houlette. Oui, c'est vrai que la traduction des rabbinats est très très éloignée du texte en fait. Vous l'avez dans le littéral, c'est mieux marqué. C'est ton sceptre et ton bâton. Donc le premier bâton, c'est un bâton de commandement. Et le deuxième, c'est plus le bâton pour, paraît-il, chasser les loups et le bâton de marche sur lequel on s'appuie. Mais il servait à quoi le bâton du berger?
Alors, il y en a des milliers de bâtons.
Ouais.
Chez nous, le bâton à la hanse,
ouais,
c'était pour attraper la brebis. La plupart des bâtons sont pour attraper la brebis. J'ai été travailler aussi en Angleterre. Le bâton ne se tient pas comme une hanse, mais le pousse avec la corne du mouton comme ça. Et c'est surtout pas pour attraper la brebis, parce que le bâton de berger anglais, ça vaut une fortune. Parce que c'est une corne de brebis. Alors, vous l'attrapez une fois, la deuxième fois, ça pèse.
C'est cassé. Voilà.
Donc, ils ont fait une canne anglaise. Mais quand j'étais petit, le bâton, c'était pour s'amuser. Parce qu'il faut quand même passer son temps. De garder les brebis qui mangent, il faut les laisser manger. C'est pas le chien qui doit garder les moutons, c'est le berger qui commande le chien. Il y a la brebis, tu ne dois pas dépasser là. Mais après, c'est du temps. Il faut la laisser manger. Et de laisser manger et d'observer les moutons qui mangent, c'est du temps. Je ne suis pas lecteur. Je n'ai jamais pris de la lecture pour aller... Je suis resté à l'alpage parce que des fois, ben, les bergers, ça ne me convenait pas. Ils sont partis. J'ai dû aller faire 20-30 jours à l'alpage. Sans lecture, pour moi, de regarder la nature... Si un jour vous avez la possibilité de monter, reculer et de regarder Genève à l'envers de ce que tout le monde voit, c'est autre chose. Et de le voir un soir, c'est encore mieux de voir toutes ces lumières, c'est beau. Mais aujourd'hui, qui, à part un écran et son doigt, fait, même en courant, on arrive à faire comme ça avec son doigt, on ne regarde même pas, on a des bouchons dans les oreilles. On n'entend plus rien. Et c'est un fait. Je me bats avec mon fils qui a 7 ans, du zim-zim. La société d'aujourd'hui devient virtuelle. Malheureusement, on a... Aujourd'hui, je suis content d'être là, simplement pour pouvoir causer. Mais je vous rassure, c'est aussi un téléphone, mais c'est un téléphone. C'est un téléphone. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas...
Bon, je dois dire que j'ai mis au moins 5 fois avant de vous atteindre.
Oui, mais parce que j'en ai perdu.
Parce qu'il y avait toujours un truc à faire.
Oui, malheureusement. Donc, je vous rassure, hein, je suis là, mais il y en a d'autres qui travaillent pour moi.
Merci. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Marc.
Alors, effectivement, il parle des faces. C'est qu'effectivement, le devant moi, c'est... C'est devant ma face, en fait, devant mes faces, voilà, c'est-à-dire, il dresse une table devant ceux qui m'attaquent. Alors, m'attaque, vous avez vu, dans l'hébreu, c'est sarar, c'est-à-dire, en fait, c'est prendre à la gorge, c'est étrangler, en fait. Alors, on ne sait pas très bien ce que veut dire cette image, hein, si ce n'est que c'est peut-être beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait chercher, c'est que, ben, quand on mange ensemble, on communie à quelque chose qui est essentiel, et puis ça peut, c'est une sorte de communion, quoi. Et c'est vrai que c'est une sorte de paix réelle, concrète, autour de la table, et je pense que c'est Dieu qui arrive à faire ce miracle de réconciliation avec ceux qui m'étranglaient, qui me prenaient à la gorge, qui m'assassinaient. Je crois que c'est simple, c'est tout simple en fait, je crois que c'est vraiment tout simple et tout pratique, tout concret, de pouvoir se réconcilier dans cette communion humaine, de animale, de devoir manger pour vivre et de manger ensemble. D'ailleurs, on le dit souvent en rigolant, le Christ, il passe beaucoup plus de temps à manger, à faire des banquets, qu'à prier. Alors, il prie quand même, mais tout seul. Mais ensuite, c'est vrai qu'il va manger avec un intégriste, un trop religieux, il va manger avec un pas assez religieux, il va manger avec quelqu'un de mauvaise vie, et puis qui sait, voilà. Et donc, c'est une façon aussi d'approcher et de communier comme simple humain. Et ça, ce Dieu qui est si tout simple et qui va vers ses brebis, bah, c'est aussi ça, peut-être, que le Christ nous montre, cette réconciliation d'un Dieu qui se met à notre table, hein, voilà.
La vie, pardon, allez-y.
Non, je voulais juste reprendre ça. Quand vous parlez de table, pour moi, le dîner, le souper sont des moments de grâce, parce qu'il y a une femme qui a concocté tout ce qu'on mange. Et
ça peut être pour un homme, hein, qui cuisine.
C'est moins bon, on va dire que c'est moins bon.
Non, mais chez moi, si c'est moi qui cuisine, mange du lait avec du complexe parce que je
suis. Voilà, c'est bon.
Mais aujourd'hui, dans ma vue de l'agriculture, je suis arriériste, pas avantiste, mais arriériste. Du coup, c'est ma maman qui prépare encore le dîner, le souper, et les employés viennent manger. Je vous rassure, dans d'autres endroits, dans d'autres exploitations, c'est plus comme ça. On n'a plus ce lien de société qu'on avait il y a 30 ou 40 ans en arrière. Et je vous rassure, hein, j'étais vivre ça en Argentine, où il y a encore cette manière de gens qui s'intègrent entre eux, entre niveaux de société tout à fait différents. Mais ils sont contents d'aller manger chez les agriculteurs, chez les employés. Il y a encore ce contact qu'on a beaucoup perdu, je pense, dans notre monde européen, où on est en train de délaisser un peu cette agriculture.
Donc c'est cette communion, voilà, à table, je pense, non, voilà.
Parce que je cherchais beaucoup plus. Chez nous, on passe des heures, hein, je rassure. Hein, on moissonne. À 2 heures, ma maman, qui a 84 ans, elle est là, elle attend le monsieur qui conduit la batteuse, elle veut discuter avec lui, elle veut savoir ce qu'il a fait pendant toute la saison. Et les gens se rapportent. Aujourd'hui, ma maman, c'est une buveuse de café. Je vous rassure, ça commence à 8h jusqu'à 20h, 22h. Il y a tout le monde qui arrive à la cuisine. Ah, madame Verti, je vais avoir un café. Voilà. Et ils s'asseyent et ça crée de la vie. Et aujourd'hui, la vie est quelque chose qui, malheureusement, est au bout d'une main gauche et d'un doigt. Et on fait comme ça.
Alors, Jean-Jacques, la vision un peu idyllique, la vision un petit peu idyllique du psaume, je ne manquerai de rien, j'arriverai toujours à traverser la vallée d'ombre et de mort. Comment le berger que vous êtes s'y prend pour protéger, pour défendre, pour sécuriser?
Je voudrais compléter.
Oui, allez-y.
Parce que ça m'a fait penser après à l'histoire de Job. Quand il lui arrive des problèmes, il dit bah, comment ça se fait puisque tu es Dieu.
Alors, les problèmes, ben, dans la profession de berger, il faut savoir les prendre un à un et trouver la solution. Aujourd'hui, je vous dis franchement, j'ai la chance d'avoir un domaine qui est assez grand, mais je sais qu'il va débarquer. La semaine prochaine, un tondeur qui va faire la transhumance pour des amis, il m'a déjà dit, mais ils sont fous de partir en transhumance, ils vont me faire courir partout, je vais faire la moitié de la Suisse pour pouvoir nourrir mon troupeau. Il va partir avec peut-être 800 ou 900 brebis depuis le 15 novembre jusqu'au 15 mars. Je vous rassure, ça ne va pas être simple tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de manquer d'air. Bon, on n'a pas de foin, on n'a pas à nourrir nos bêtes. Ça va être très compliqué. Mais on sait que dans le compliqué, il va y avoir des jours où ça va être que du bonheur, puis il y a des jours où ça va être des catastrophes, et il va falloir trouver des solutions. Et c'est de jour en jour, je cherche des solutions, et je dois la trouver, parce qu'il faut les nourrir, il faut faire ci, il faut faire ça. Et je pense, dans la base de l'agriculture en général, les gens doivent trouver des solutions jour à jour. On ne fait pas comme ça et on a la solution.
Mais cela dit, je ne crois pas que ce soit justement le bon Dieu qui fasse pleuvoir trop d'un côté ou pas assez de l'autre. Hein.
C'est les erreurs. Alors,
c'est plutôt les forces de la nature.
C'est les forces de la nature, mais c'est aussi les erreurs de l'homme.
Ça peut arriver, mais pas pour la pluie quand même. Enfin, on connaît un peu sur le dérèglement climatique.
Exactement.
Mais en tout cas, ici, on voit que Dieu... Je ne sais pas si c'est si idyllique que ça, parce que y a les catastrophes, on en parle quand même là. Effectivement, il y a du mal. Effectivement, la vallée d'ombre de mort, eh bien, c'est la vallée... Ça, c'est plutôt une image du péché, c'est-à-dire d'un moment où on est dans un creux, où on ne croit plus en rien, où on n'espère plus. Donc c'est vraiment... C'est David, c'est le lecteur qui est... Justement, qui est vraiment mal, en fait. Il est pas performant. Donc, il y a aussi l'adversaire qu'elle a, il y a aussi... Il y a tout un tas de difficultés. Donc, les difficultés sont là. Simplement, d'abord, la première chose, c'est qu'on dit que Dieu est jamais du côté de la difficulté. Il est avec nous, contre la difficulté. C'est déjà quand même une sacrée nouvelle. Parce qu'il y a des tas de gens qui pensaient que c'est Dieu qui fait la catastrophe, que c'est Dieu qui nous punit, c'est Dieu qui nous éprouve. Là, absolument pas. C'est-à-dire qu'on peut combattre contre le mal d'une manière décidée en disant Dieu est à notre côté contre le mal. Donc déjà ça, c'est une grande avancée théologique, je pense, une grande confiance aussi à avoir. Deuxièmement, ça veut dire que l'homme ne se résume pas à sa chance, à sa réussite, et que même dans les plus creux, du plus bas, même quand nous sommes quasiment une image de mort, alors qu'on est fait pour être image de Dieu, eh bien, on est encore accompagné, aimé, soutenu. Et ça, je crois que c'est une promesse importante. Voilà. Il y a aussi une promesse importante, c'est que le bonheur et la grâce, ou plutôt c'est le bon, hein, tov, c'est le bon, c'est pas le... Il y a un mot spécial pour bonheur, hein, en hébreu. Ça, c'est le bon, et la fidélité me poursuivent. C'est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas par la performance que je vais construire mon bonheur, attraper ça. C'est l'idée que ben, ça m'accompagne. Je trouve que c'est quand même une belle image. Se tient avec moi, toi avec moi, il est marqué dans le mot à mot. Mais Hamad, c'est la colonne, et c'est la colonne comme la colonne de feu qui accompagnait les Hébreux dans le désert. C'est-à-dire que il y a cette promesse que individuellement Dieu nous donne la présence de l'Éternel pour nous faire traverser les déserts et rejoindre la vie, quoi. C'est une promesse qui est donnée, et je connais bien des personnes qui ont une vie très très dure, parce que moi personnellement ma vie a été plutôt douce, mais il y a des gens qui ont vécu des choses extrêmement dures à travers des guerres, à travers des maladies, à travers des crises épouvantables, et qui disent, moi si j'avais pas eu la dépression, si j'avais pas eu l'Éternel à mes côtés, j'aurais pas pu faire face, en fait. Et qui ont vraiment senti ce secours qui donne une dignité radicale, même quand on a perdu son emploi, sa santé, qu'on se retrouve seul au monde. Je crois que là, il y a quelque chose quand même qui est très fort. Oui. Quelque chose qui est très fort, qui remet les choses en perspective aussi. Et c'est pas simplement idyllique, ça peut vraiment être vécu existentiellement, spirituellement, intellectuellement aussi, théologiquement, en disant aucune vie est sans dignité. Voilà. C'est ça que Merci. Ça veut dire aussi.
La dernière image qui est aussi très importante de ce psaume, c'est de considérer l'existence comme un voyage, hein, comme une... Et même si on restait toujours à Genève, en fait, on ne cesse jamais de bouger, de grandir, d'évoluer, avec tous les événements qui viennent à nous, et c'est un psaume qui existentiellement ne peut se comprendre que justement dans le alors merci, tout ça pour dire merci d'être venu là, d'avoir quitté votre chez vous pour venir ici. Vous allez maintenant repartir, puisque nous sommes des gens qui allons et qui venons. Mais on a préparé quand même une table, parce que le psaume 23 parle justement des produits de la terre. Alors sachez que tous les produits qui sont là sont des produits qui ont été faits à Genève, dans le terroir genevois. Vous avez des trucs que je n'ai même pas goûté tellement c'est bizarre, mais on va les découvrir ensemble. Tout vient de la maison forte. Je ne sais pas si vous connaissez ça.
À Troisnay,
hein, Patricia Bidot. Donc c'est
députée.
Elle est députée en plus, oui, on se croise, elle va, elle, au Grand Conseil, moi je reste ici. Hein. On se croise, on se salue. Et donc, c'est elle qui nous a
mis. Voilà, pardon. Juste, entre guillemets, le pasteur vient de parler de la mort. Je vais vous raconter en fait ma vie. Hein. Il y a 2 ans et demi, un jour, ou le jour d'après, c'était la pluie, la machine casse. Je répare tout seul la machine, vous savez, tranquillement, le matin, en disant, voilà, je vais réparer ma machine, je vais enlever la pièce pour aller prendre la pièce pour aller déjeuner avec mon fils, pour aller la faire ressouder. Ça, c'est ce que j'avais dans la tête. Moi, j'avais oublié qu'il y avait 400 kilos qui allaient me tomber dessus. Pendant 8 secondes, j'ai vu tout près mon père qui lançait la clé en disant, c'est pas par là, c'est plutôt par là-bas. C'est un moment de ma vie où j'ai la colonne vertébrale qui a failli faire. J'ai pris 400 kilos sur le dos. Quoi, j'étais couché dessous, puis il m'a coincé dessous. C'est l'effet de la vie. C'est ces quelques secondes qui vous approchent de la mort et qui, par bonheur, m'a fait revenir sur terre. Il y a des moments où j'en ai encore la chair de poule. Ces quelques instants où j'étais coincé sous la machine, où la vie vous passe en... Qu'est-ce qui me bloquait le plus pour rester sur Terre? C'était de voir ce gamin qui avait à peine 3 ans, parce qu'il en a 7, de dire, mais je ne vais pas pouvoir voir la fin de ce... De, peut-être je ne la verrai pas, mais de voir ce garçon, le futur. Mon père a eu la chance de le voir naître. Il l'a embrassé, c'est la dernière chose qu'il a fait sur cette terre. Il s'est assis à table à la maison, paf, il s'en est allé chez le bon Dieu. 2 ans après, c'est mon tour, mais je suis encore là. Il y a quelque chose là-bas qui m'a dit qu'il fallait que je revienne ici. C'est pour vous dire que de croire au bon Dieu, je crois que des fois, il y a beaucoup de gens qui feraient mieux de continuer à croire au bon Dieu, puis que c'est des bonnes choses de la vie. Et d'être ensemble, c'est de lutter contre justement tous ces événements qui sont autres que ça.
Bravo. Parole de berger.
Merci beaucoup. Prochaine rencontre, c'est le 19 novembre avec Ecclésiaste 3, donc des rythmes et des temps de la vie.
Et on aura peut-être, rien n'est encore confirmé, mais le professeur de philosophie de la faculté de théologie de Genève, Guillaume Waterloo, et Thierry de Saussure, psychanalyste, qui est très intéressé par ce thème, puisqu'il approche du temps de la fin de sa vie, et il m'a dit, alors ça, il y a un temps pour tout, c'est ce que je médite chaque matin en me levant. Voilà, alors bienvenue à tous, merci encore pour votre présence, et n'hésitez pas à goûter ces produits, à déguster.